Laudetur Jesus Christus.
Une entrée dans l'Avent sous le signe de la paix. Hier, lors de l'Angélus, le pape s'est félicité du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Il a aussi exhorté les parlementaires libanais à élire un président. François a également longuement évoqué la guerre en Ukraine, renouvelant son appel à la paix alors que l'hiver se fait déjà sentir dans le pays. On y revient juste après les titres. Nous reviendrons aussi sur le cessez-le-feu et la situation qui prévaut au Liban dans notre dossier avec Karim Bitar, professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Le Saint-Père, préoccupé par la reprise des combats en Syrie et la prise d'Alep par les djihadistes, un cauchemar qui recommence pour la population civile, contrainte de fuir dans des conditions plus que difficiles. Nous entendrons le témoignage du correspondant de l'œuvre d'Orient au Liban. Législative en Roumanie, l'extrême droite réalise une forte poussée, les sociaux-démocrates en tête une semaine après le premier tour de la présidentielle qui a propulsé deux inconnus au second tour. Le Sénégal commémore le massacre de Tiaroua. Il y a 80 ans, des militaires français tuaient des dizaines de tirailleurs sénégalais. Une plaie encore vive, comme nous le dira l'archevêque de Dakar.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, premier dimanche de l'Avent hier, l'Église et le monde se préparent à la naissance du roi de la paix. Le pape a évoqué, place Saint-Pierre, les grandes espérances de paix qu'attendent les peuples au cœur alourdi par l'horreur de la guerre. Ce théâtre, après l'Angélus, le souverain pontife s'est inquiété du troisième hiver de guerre ukrainien, tout comme de la Terre Sainte meurtrie d'Elphine Allaire.
Absolument, Xavier. François, l'air grave et préoccupé, l'a répété. La guerre est une horreur, elle offense Dieu et l'humanité n'épargne personne. Depuis près de 3 ans, plus de 1000 jours, elle ensanglante l'Ukraine martyrisée, où enfants, femmes, personnes âgées et plus faibles en sont, selon lui, les premières victimes.
Pensons que l'hiver est à nos portes et qu'il risque d'aggraver les conditions de vie de millions de personnes déplacées. Ce seront des mois très difficiles pour elles. La combinaison de la guerre et du froid est tragique. Au moment où nous nous préparons à Noël, donnons à ces populations une espérance concrète.
En Ukraine comme ailleurs, cette recherche de la paix est la responsabilité de tous, a martelé François, invitant à ne pas se lasser d'implorer de Dieu le don de la paix pour ses populations. Une lueur de paix s'est-elle allumée au Liban? Le pape salue le cessez-le-feu conclu, en souhaite le respect et en profite pour interpeller les autorités du pays du Cèdre.
Dans cette situation, j'adresse un appel urgent à tous les hommes politiques libanais, afin qu'un président de la République soit élu immédiatement et que les institutions reprennent leur fonctionnement normal. J'espère que la lueur de paix qui s'est ouverte pourra conduire à un cessez-le-feu sur tous les fronts, en particulier à Gaza.
Gaza, où le pape a de nouveau précisé souhaiter la libération des Israéliens toujours retenus en otage et un accès de l'aide humanitaire à la population palestinienne épuisée à l'approche d'un deuxième Noël de douleur sur la terre du Christ.
Delphine Allaire, et concernant Gaza, le cauchemar de la population civile se poursuit en effet puisque l'UNRWA, l'agence des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens, suspend la livraison d'aide depuis un point de passage clé avec Israël. Son directeur Philippe Lazzarini précise que les camions de nourriture avaient été tous volés ce week-end pendant leur acheminement. Les opérations humanitaires sont devenues impossibles, affirme-t-il, ajoutant que la responsabilité de la protection des travailleurs humanitaires et du matériel incombe à l'État d'Israël en tant que puissance occupante. La Syrie, dans les prières du pape François lors de l'Angélus, a regretté la reprise des combats qui ont causé de nombreuses victimes, a-t-il dit, exprimant sa proximité avec l'Église en Syrie. Le Saint-Père évoquait la chute d'Alep, seconde ville du pays, ce week-end par les troupes djihadistes d'Ayat Tahrir al-Sham et des groupes rebelles. L'armée syrienne, aidée par les troupes russes stationnées dans le pays, tente depuis de repousser cette offensive éclair. Mais pour les Alépins, le cauchemar recommence, comme nous le confirme Vincent Gélot, directeur Liban-Syrie de l'œuvre d'Orient.
La situation à Alep actuellement est cauchemardesque. Une partie des habitants a fui la ville, non pas par l'autoroute principale qui relie Alep à Hama et Homs, mais par la route du désert, dans des conditions épouvantables, avec parfois plus de 20 heures pour rejoindre Homs, qui n'est qu'à 2 heures de route habituellement. Les gens ont dû, en pleine nuit, à moins de 0 degré, y aller en voiture, ils étaient bloqués. Aller à pied en plein désert, c'était un vrai cauchemar. Le reste des habitants qui n'a pas pu fuir est resté coincé chez eux. Les islamistes ont instauré un couvre-feu pour empêcher les gens de sortir, donc ils n'ont pas quitté la ville. On est évidemment très inquiets pour le sort des habitants d'Alep et en particulier celle de la minorité chrétienne. Les églises locales à Homs, notamment à Damas et à Tartous, ont commencé à mettre en place un accueil pour ceux qui arrivent, mais eux-mêmes, on ignore à ce stade quel est le sort qui les attend, puisque la ville de Hama, qui se trouve à 140 km au sud d'Alep, a elle aussi été prise par les milices islamistes. Et donc, ils se rapprochent de la ville de Homs et d'autres villages.
Vincent Gélot de l'Œuvre d'Orient. Et malgré ce sombre tableau hier, le pape a invité les fidèles réunis place Saint-Pierre à relever la tête, à garder le cœur léger et éveillé comme le Christ nous a invité à le faire. Dans son commentaire de l'Évangile lors de l'Angélus, François a donc encouragé à faire sien ces paroles du Christ afin d'affronter les inquiétudes, les peurs et les angoisses ou faire face à ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. À plus de précisions sur ces paroles à l'Angélus du Saint-Père sur notre site internet www.vatican.com. Deuxième week-end électoral en Roumanie avec après le premier tour de la présidentielle dimanche dernier qui a vu un candidat indépendant et souverainiste terminer en première position. Les élections législatives avaient lieu hier. L'extrême droite gagne du terrain. L'incertitude et la confusion dominent, d'autant plus que le premier tour de la présidentielle pourrait être annulé. À Bucarest, Alex Diaconescu.
Les sondages sortis des urnes placent en première position le Parti social-démocrate, un des deux partis au pouvoir actuellement à Bucarest. Pourtant, l'extrême droite est créditée d'un tiers des voix exprimées, alors qu'il y a 4 ans, elle ne dépassait pas les 10%. Le Parti social-démocrate aura à choisir entre les pro-européens de centre-droit et les souverainistes de l'extrême droite pour constituer une alliance gouvernementale. Tout dépend du résultat du second tour du scrutin présidentiel prévu pour le 8 décembre, qui opposera un indépendant nationaliste pro-russe, Călin Georgescu, à Elena Lasconi, la chef du parti de centre-droit de l'Union Sauver la Roumanie. Le climat électoral demeure extrêmement tendu en Roumanie, qui fait un recomptage des bulletins du premier tour du scrutin présidentiel, alors que les autorités ont mis en cause des ingérences étrangères et le rôle de la plateforme TikTok, utilisée par près de la moitié des Roumains. Elle fut la scène d'une promotion massive des messages de l'extrême droite qui ont mis en avant la défense des valeurs traditionnelles, la neutralité face à la guerre en Ukraine et une critique de l'Union européenne. Bucarest, Alex Diaconescu pour Radio Vatican.
On votait également en Irlande, les deux partis de centre-droit, Fianna Fáil et Fine Gael, pourraient bien se maintenir au pouvoir. Sur les 174 sièges du Parlement, ils en détiennent déjà 73. Le Sinn Féin, lui, en a 34. Les résultats définitifs ne seront connus que dans quelques jours. Fait notable de ce scrutin, la faible participation, moins de 60%, du jamais vu depuis 1923. Direction maintenant le Sénégal, où le 1er décembre 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, les forces françaises se livraient à un massacre à Tiaroy, ouvrant le feu sur plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais et ouest-africains qui réclamaient le paiement de leurs primes. 80 ans après, cet événement a été commémoré hier au cimetière de Tiaroy par le président sénégalais, Diomaye Faye, en présence du ministre français des Affaires étrangères, et c'était une première. Jean-Charles Puzolu.
Oui, une première, car la semaine dernière, le président français Emmanuel Macron a pour la première fois reconnu un massacre perpétré par les forces coloniales dans une lettre adressée au président du Sénégal le 28 novembre. Paris et Dakar divergent encore sur le nombre de victimes, 35 selon la France, au moins 400 selon le Sénégal, parmi les 1600 tirailleurs du camp militaire de Tiaroy qui avaient osé réclamer le versement de leur dû. Dans un contexte de relations de plus en plus délicates entre la France et ses anciennes colonies, le président Diomaye Faye entend par cette commémoration à laquelle ont participé également 4 autres chefs d'État d'Afrique de l'Ouest et le président de l'Union africaine, mettre fin à 80 années d'omerta. Pour l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, la reconnaissance par la France de sa responsabilité offrira aux jeunes générations des éléments qui les aideront à construire leur identité.
La recherche identitaire de la jeunesse africaine, c'est qu'on doit réécrire l'histoire pour dire les faits et les reconnaître tels qu'ils se sont passés. Même pas dans un esprit de règlement de compte, mais pour que l'on sache d'où l'on vient, quels drames ont été vécus et comment faire en sorte que ces drames soient dépassés. Ce devoir de vérité est une exigence pour pouvoir établir le cadre d'une coopération plus franche et plus fraternelle.
Le président sénégalais a de fait affirmé son souhait d'une relation rénovée avec la France, qui reste l'un des principaux partenaires économiques de Dakar, mais qui devra, ajouté Diomaye Faye, fermer ses bases militaires au Sénégal.
Jean-Charles Puzolu, et contrairement à son engagement maintes fois répété de ne pas le faire, Joe Biden a gracié son fils Hunter, qui attendait de connaître sa peine dans des affaires de détention illégale d'armes à feu et de fraude fiscale. À quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche, le président des États-Unis a expliqué que Hunter avait été poursuivi par la justice uniquement parce qu'il était son fils. Une mesure vivement critiquée par Donald Trump. Retour dans notre dossier au Liban, qui connaît un cessez-le-feu fragile depuis le 27 novembre, après 2 mois de guerre entre le Hezbollah et Israël. Le pays est exsangue. Qu'attendre alors de la période qui s'ouvre, surtout du point de vue politique? Dans quel état d'esprit sont les Libanais? Le pays peut-il surmonter cette épreuve? Nous en parlons ce matin avec Karim Bitar, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth.
Ce cessez-le-feu devrait également représenter un nouveau départ. Les Libanais espèrent également que cette nouvelle phase ne permettra pas de renflouer la classe politique qui a mené le pays au désastre. Il faut donc espérer aujourd'hui une consolidation de l'unité nationale, un sursaut collectif et un nouveau contrat social qui permettra d'édifier enfin un État solide, des institutions, pour que tous les Libanais puissent vivre avec une égalité des droits et des devoirs dans le giron de l'État.
Quel impact cette guerre a sur la société libanaise?
L'impact économique qui est considérable, qui est estimé entre 8 et 20 milliards de dollars, près de 4 000 morts, près de 16 000 blessés, beaucoup d'estropiés. Mais il ne faut pas sous-estimer aussi le traumatisme psychologique que cette guerre a représenté pour toute une population. Donc cette guerre a laissé véritablement des blessures qui vont prendre beaucoup de temps à se cicatriser. Cette guerre fragilise encore plus l'unité libanaise. Il faudra redoubler d'efforts pour que le Liban demeure un pays où tout le monde vit dans la bonne entente. Ce message de convivialité et de liberté dont parlait le pape Jean-Paul II.
La situation actuelle va-t-elle bouleverser les équilibres internes au sein du Hezbollah?
Il y aura une période d'adaptation qui risque d'être assez longue, car le Hezbollah a perdu ses principales figures emblématiques. Un grand nombre de ses cadres a été considérablement affaibli militairement, mais il conserve une influence politique qui n'est pas négligeable. Et en l'absence d'interlocuteurs libanais côté Hezbollah, c'est envers l'Iran que doivent s'adresser la communauté internationale et même les hommes politiques libanais. Il est aujourd'hui clair que les décisions importantes se prennent directement à Téhéran. Il risque d'y avoir une reprise en main directe du Hezbollah par l'Iran.
Quel rôle la France et les États-Unis ont joué en vue de la future stabilisation du Liban?
Ce sont essentiellement les États-Unis qui ont négocié cet accord avec Israël. Ce n'est qu'à la dernière minute que la France a pu rejoindre ce comité qui va assurer le suivi du cessez-le-feu. Et la France a payé un prix très cher parce que Emmanuel Macron a accepté de donner une sorte d'immunité à Benjamin Netanyahou suite au mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale, ce qui est un véritable scandale du point de vue juridique. La position française n'est pas conforme au droit international, mais la France a estimé qu'elle devait faire cette concession pour pouvoir rester partie prenante dans ce dossier libanais aux côtés des États-Unis.
Le président du Parlement libanais a annoncé la tenue d'une session le 9 janvier prochain en vue d'élire un nouveau président. Y a-t-il un consensus qui se dégage autour de la question?
Il faudra d'ici cette date qu'émerge un nom autour duquel puisse se créer un modus vivendi entre les puissances régionales et internationales. Et idéalement, il faut que ce soit une figure qui puisse inspirer confiance à la société libanaise, à la diaspora libanaise, qui puisse encourager les investisseurs, les Libanais à se réimpliquer dans la reconstruction de leur pays. Donc il y a une période qui est en train de s'ouvrir, qui va être intéressante parce qu'il y a la possibilité que les cartes sont rebattues. Mais le système libanais est encore résilient, ce système composé d'une caste d'anciens miliciens, d'oligarques, de chefs communautaires, de miliciens. Ils sont déterminés à s'accrocher au pouvoir.
Interrogé par Augustine Asta, Karim Bitar, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet ou notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.